quelque chose qui attaque, qui désagrège l'homme. Dit encore autrement, il y a dans l'humanité quelque chose qui n'est pas exactement le projet de Dieu tel qu'il le rêve, et puisqu'il le rêve, tout ce que Dieu rêve, doit se réaliser. Mais il ne peut se réaliser qu'en collaboration avec la liberté de l'homme. Donc, le lieu où Dieu doit agir, c'est la liberté. Et comme cette liberté, c'est toujours l'homme mis devant ses limites, c'est pour ça que je vous disais, c'est dans la limite que je rencontre Dieu. C'est où il y a un au-delà de moi-même. Et ça, c'est une réflexion, bien sûr, d'ordre beaucoup plus théorique. Dans la Bible, c'est dit de façon imagée, d'ordre théorique, mais c'est basé sur toute une réflexion théorique, qui n'a pas été faite comme cela d'abord, et heureusement d'ailleurs, qui a été d'abord composée, voyez, et c'est ça que je trouve admirable. Elle a été composée à partir d'une littérature déjà existante qui se posait ces questions-là. Que devient l'homme face à ce monde des dieux que l'on imaginait exactement comme un monde d'hommes, mais en plus haut, ils habitaient seulement l'étage supérieur, tandis que les hommes étaient des domestiques. Et quand les domestiques se révoltaient, mais il fallait les faire périr d'une manière ou d'une autre. Alors on ouvre les vannes et on noie tout ça. Ça, c'est l'image que vous trouvez dans Gilgamesh et Atrahasis, etc. Il y a d'autres textes que sur le sujet. Et ici, vous voyez qu'il y a une réflexion qui a décanté toute cette imagerie ancienne, qui l'a reprise. Elle a repris le schéma mythique, mais en les épurant. Et là, je trouve un signe extraordinaire de la condescendance, de la miséricorde de Dieu. L'inspiration ne crée... l'inspiration. La révélation ne crée pas de toute pièce. Elle part de ce que l'homme a déjà découvert. Et elle est déjà présente, travaillant dans ce matériau imagé pour aider l'homme à percevoir quelque chose de plus profond. Mais qu'il va dire dans des termes encore mythiques. Oui.
Quand Dieu crée l'homme, il le met sur un fameux chemin de croix. Et d'une certaine façon, il fait peser sur lui un fameux croix, parce que c'est quand même pas rien de vivre sa vie avec tant de gens sur la terre.
Mais bon, voilà, c'est ça qui nous fait réfléchir. Dieu prend ce poids sur lui. Il prend ce poids sur lui. Et c'est le commencement du chemin de croix de Jésus. Comme saint Paul nous le dit, le monde est créé en Jésus, premier-né de toute créature. L'humanité en Jésus est premier-né de toute créature. Et donc, c'est tout le chemin de l'Assomption. Oui.
Je ne comprends pas pourquoi si Adam et Ève n'avaient pas péché, Jésus serait leur enfant. Parce qu'il est venu pour nous sauver, il n'y aura pas besoin de se faire sauver.
C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Mais qu'est-ce que c'est sauver? Qu'est-ce que c'est sauver? Nous, quand nous pensons sauver, nous voulons dire sauver du péché. Mais ce n'est qu'une toute petite partie du salut, ça. Le salut, c'est mettre l'homme vraiment au cœur de la Trinité. C'est le diviniser, comme disent les pères de l'Église. C'est ça le salut. Mais nous, nous dit sauver, nous regardons simplement le côté négatif, sauver du péché. On tire de l'eau. Mais quand on a fini de tirer quelqu'un de l'eau, c'est tout le travail n'est pas fait. Hein? Il faut encore le réanimer, et il faut le réchauffer, il faut lui donner à manger graduellement, hein? Il faut le prendre en charge. C'est un petit peu ça. Le salut, c'est vraiment prendre l'homme en charge à partir de son péché, c'est-à-dire à partir de son refus hein, son refus de son propre exister, hein, refus de la réalité telle qu'elle est, à partir de là, il doit être introduit au cœur même de la Trinité. C'est énorme, ça. C'est ça, le salut.
Mais on ne va pas mieux pour ça.
Pas nous. Ça ne...
Le monde ne va pas mieux pour ça, par le...
Mais c'est nous qui voyons les choses comme ça. Et Dieu le vit comme ça. Et alors, quand Dieu le voit comme ça, hein, le commencement du chapitre sur le déluge, quand Dieu voit les choses comme ça, comment il va s'en tirer? Comment il va s'en tirer? Regardez la fin, il n'y aura plus jamais de déluge. Dieu s'en tire en disant que l'homme est véritablement sauvé dans son cœur. Et donc, puisque l'homme est sauvé dans son cœur, dans le cœur de Dieu, il doit arriver à ce que son cœur humain devienne le cœur de Dieu. Mais ça, c'est tout. Toute la réalité de Jésus. C'est pas pour rien que, hein, la symbolique, nous devons encore en parler, la symbolique de la du déluge, c'est la symbolique du baptême. On revient à ça, évidemment. Et qu'est-ce que c'est que le baptême, je vous l'ai déjà dit, c'est être plongé dans la communion trinitaire, la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, Dieu a une solution. Mais ça, c'est une manière très, très anthropomorphique, hein, de se représenter les choses. Dieu a créé l'homme, bon, il est déçu parce que l'homme a fait le péché, et Dieu va raccommoder. Comme ça que nous voyons les choses. Mais c'est pas comme ça. Le plan de Dieu est salutaire dès le départ. Et donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien, ils auraient été, tous les hommes auraient été le corps du Christ. C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il voulait dire. Une manière de penser de nouveau, hein, parce que c'est inimaginable. Nous ne pouvons pas imaginer des choses en dehors de la réalité de l'histoire. Et toutes les imaginations que nous pouvons avoir peuvent être belles, mais elles ont l'inconvénient toutes de n'être pas réelles.
Oui, mais ça revient à Félix Kulpa, qui nous a valu le sauveur.
Bien sûr. Félix Kulpa qui nous a valu le sauveur. Mais qui nous a valu, mais pour que le sauveur puisse apparaître tel, il faut un long chemin. Hein. Il faut d'abord tout le chemin d'Israël. Et c'est un chemin rempli de guerre, de violence, hein, de toutes sortes de choses qui sont vraiment pas très belles. Et pourtant, et c'est ça la Bible, c'est le chemin de Dieu à travers des libertés humaines qui refusent constamment. Oui, alors François, il y avait Paul. Oui.
Moi, j'ai toujours un problème un peu général d'ambiguïté de texte et d'inaccessibilité qui n'est pas toujours beaucoup amélioré par les traducteurs.
Bien sûr.
Donc, on pourrait faire un peu plus d'efforts pour rendre les textes plus compréhensibles dans l'expression. Non, mais.
Tu touches un point que j'allais juste toucher. Mais c'est
quand on parle. Excuse, mais quand on parle de la faute, et qu'on trouve le texte comme il est, dans nos bonnes Bibles, puis il y avait Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Qu'il n'étende pas maintenant la main, ne cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Qui peut comprendre ça comme il faut? Forcément, on comprend mal. Hein? Forcément. Connaître en français, ça veut dire c'est positif. Quand on lit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'entendement. » Qui peut comprendre ça convenablement? Personne. Hein? Acquérir l'entendement, c'est tout ce qu'il y a de plus positif. Donc, que nos traducteurs, une fois, essayent de nous montrer que les choses sont autres. Hein? Et il faut continuer tout le temps comme ça.
Tout le temps.
Je continue.
D'un bout à l'autre de la Bible.
Ça à la légère.
Mais non, bien sûr.
Quand on parle de Caïn et Abel, hein, qui est-ce qui pense aujourd'hui en écoutant ce récit et en écoutant que que l'offrande de pain n'est pas acceptée, etc., etc. Qui pense à ce droit d'aînesse qui est retourné par Dieu, etc. Qui sait, parce que c'est quand même assez fondamental pour comprendre l'affaire, qui sait que Abel, ça veut dire le faible, le petit, le rien du tout. Personne. Demande à 120 curés dans le pays, il y en a un demi qui te répondra. Puis demande à 3000 laïcs, il y en a un quart qui te répondra. C'est un quart d'un.
Mais non, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et les curés, même chose, hein, la moitié d'un.
Je suis tout à fait d'accord
quand
avec toi.
Quand on parle du déluge, bon, alors, j'ajouterais, tu vois, que parfois, j'ai l'impression qu'on édulcore les textes. Hein. On édulcore dans le sens qu'on évacue tout ce qui est désagréable et on présente, c'est peut-être très juste, mais n'empêche qu'on présente le beau côté des choses. Hein. Si on vient au déluge, mais pourquoi le texte nous parle-t-il comme ceci, hein? Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé. Car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Qui peut comprendre que ce n'est pas ça que ça veut dire? Qui peut comprendre que ce n'est pas ça que le texte veut dire? Et si je continue un petit peu plus loin, pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel, etc., etc., hein, tout souffle, bon. Hein, qui peut comprendre que ce n'est pas ça que ça veut dire? Alors, moi je dis qu'il y a une inaccessibilité de la Bible, tu vois. Hein? Et, bon, ben alors...
Elle est faite pour ça.
Mais oui, mais je sais que c'est ça ta réponse. Je sais que c'est ça ta réponse, mais ça ne me satisfait pas.
Mais elle est faite...
Ça m'énerve encore un peu plus.
Je sais bien. Je sais bien.
Alors moi je dis, mais pourquoi les gens ont-ils vomi la Bible et tout le reste depuis toujours?
Oui.
Mais parce que
ça les embête.
Mais non. Elle est incompréhensible. Elle ne dit pas ce qu'elle veut dire.
Non. Elle le dit autrement que nous ne voudrions qu'elle le dise.
Ben non. Parce que quand tu l'expliques, tu dis, c'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est le contraire.
Mais c'est-à-dire que je vais chercher la cohérence de tout ça.
Ah oui, bien sûr.
Et ce n'est pas moi. On l'a fait depuis le début.
Ah oui, mais...
Et donc...
Je regrette.
Ah, eh bien, nous pouvons le regretter indéfiniment, et c'est peut-être là que notre péché originel, c'est de nous dire, pourquoi la Bible n'a-t-elle pas été écrite comme je voudrais qu'elle soit écrite?
C'est pas comme je voudrais, elle me dit autre chose qu'elle veut me dire.
Non.
Mais si.
Non,
mais
elle ne
si.
Me dit pas autre chose de ce qu'elle veut dire, elle dit exactement ce qu'elle veut dire. Mais elle le dit d'une certaine manière. Jésus fait pareil.
Vous êtes bien le demi-curé qui répond à... Il a parlé de
demi-curé. Ah oui. Le curé sur les 120.
Oui. Eh bien voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de côtés positifs. Quand on veut bien garder tout près, il faut quand même réfléchir. La Bible nous invite à réfléchir. Elle s'explique souvent par elle-même. Quand on va un peu plus loin, on voit un autre passage. Je vois deux points très positifs dans le déluge. Vous avez fait une comparaison avec le baptême. Toute vie sort de l'eau, même la vie chrétienne. C'est une idée fort moderne, proche de l'évolution. Autre chose, en parlant d'évolution, on pourrait même dire que le déluge est un cinquième récit de création. Vous avez la terre, l'eau, les premières créatures qui sont en dessous. Au-dessus, vous avez les créatures qui sont échappées, mais qui sont au-dessus, dans l'arche. Et puis Noé. La preuve, c'est que Noé, parce que Dieu referme la porte sur lui. Donc il y a ces animaux là supérieurs, et l'homme est au-dessus, à la petite tourelle, là. Et puis Dieu est encore au-dessus, puisqu'il referme la porte. N'est-ce pas gentiment? Et bien, il y a comme une hiérarchie des êtres, rien qu'à regarder le spectacle du déluge. Il faut quand même regarder la Bible avec l'optimisme. Hein. Je comprends mon cher voisin derrière, qui tourne le dos. Mais il faut aborder avec un certain enthousiasme, un certain optimisme.
Je ne réponds pas à ma question.
Non, mais pas tout à fait, bien sûr. Hein. En parenthèse, enthousiasme, c'est d'avoir Dieu en soi. Elle tout, c'est Deus. Alors, il faut aborder la Bible quand même ainsi, avec un certain optimisme. Ouais. Moi, je m'enchante personnellement. Donc, au lieu de me désarçonner, tu vois.
Mais c'est-à-dire que la Bible est faite un peu comme un labyrinthe. Elle n'est pas faite pour nous dire des choses. Je pourrais vous dire, nous avons perdu tout à fait notre temps, nos 3 jours, hein, si nous voulons avoir qu'est-ce que le texte veut dire. Le texte veut dire, on peut faire en 5 propositions, on peut dire ce que le texte veut dire en 5 propositions très rapides. On peut dire que le monde n'est pas l'effet du hasard, mais que Dieu est à l'origine de ce monde, et que le plan de notre semaine nous le rappelle. On peut dire en second lieu que l'homme est créé, l'homme et la femme sont créés pour vivre en communion, et qu'il se fait qu'en réalité cette communion ne vit pas parce que chacun essaie de voir son point de vue, et qui n'est pas toujours le point de vue de Dieu. Tant s'en faut. On peut dire ensuite que la jalousie est la source et la graine de violence dans le monde, et que cette jalousie perd les hommes à telle enseigne que le monde n'apparaît souvent que comme jonché de cadavres. Et cependant, à travers ce monde jonché de cadavres en raison de la violence des hommes, il y a un projet de vie de Dieu à travers cette histoire. Comment va-t-il le réaliser? On peut dire aussi que dans le monde, chacun cherche ses petits intérêts, et ses intérêts sont contradictoires, et que on voudrait toujours, c'est une utopie, on voudrait toujours quand même une certaine uniformité pour se comprendre. Voilà, j'ai tout dit. On peut partir. Oui?
Oui. On a peut-être une chance d'avoir eu l'occasion d'entendre une nouvelle course sur la vie autrement, parce qu'on l'entend au premier sens quand on l'entend en paroisse. À certains moments, c'est vrai qu'en paroisse, on se dit, voudrait mieux qu'on ne dise pas tel texte si on ne l'explicite pas. Et hier, Simon Rousseau le disait la même chose. Il y a des tas de textes dans l'Ancien Testament qui sont proclamés et qui n'ont aucune explication, et on le prend. C'est pas de la mauvaise volonté. On est limité dans l'ouverture par rapport à la compréhension. Et de ce fait-là, on reste longtemps sous une image de Dieu, donc on a beaucoup mal de s'en défaire. Donc voilà.
Le problème est là. Là, tu mets bien le doigt aussi, comme François, sur le véritable problème. Le problème, c'est que si on prend 3 ou 4 jours pour lire des textes qui nous semble facile et anodin, et que nous n'arrivons qu'à un tout petit niveau déjà, c'est que la Bible, avec ses aspérités, ses difficultés, ses incompréhensions, ce sont des textes qui ont été faits justement pour faire chercher, et pas des textes qui ont été faits pour nous annoncer quelque chose de l'extérieur. Ce sont des textes qui sont exactement, comme je le disais, des labyrinthes. Il faut passer de quantité de chemin pour arriver à découvrir. Mais tout ce travail devrait être fait depuis l'âge de 3 ans. Hein. Ces textes qui nous sont dits le dimanche à la messe, ce sont de simples rappels. Nous connaissons tout ça. Et on nous rappelle, oui, nous devrions les connaître. Et on nous rappelle tout ça, et ça chante en nous, comme ça chantait dans les vitraux des cathédrales. Mais malheureusement, nous sommes à un état de sous-intellectualisme scripturaire étonnant. Un petit juif de 5 ou 6 ans connaît un certain nombre de choses que je vous ai dites. Pourquoi? Parce qu'on le lui apprend dès 5 ou 6 ans. Et nous ne connaissons pas tout ça parce que nous continuons de mettre dans notre tête une sorte de petit ronron des textes où nous n'avons jamais été au-delà de la superficie. Alors, mais c'est vrai aussi bien, je dis aussi bien pour les prêtres, pour moi, que pour le peuple chrétien. C'est pour tout le monde comme ça. Mais il y a tellement de choses à faire pour construire le monde, comme on dit, tellement de choses à faire, qu'on ne la fait pas. Et petit à petit, la connaissance de cette écriture nous échappe.
Nous échappe. Quelle aberration y a-t-il quand on dit à des personnes qu'on essaye d'inciter à faire de la catéchèse à des enfants pour professer au foi, Oh, mais il suffit d'être bon chrétien, il suffit d'avoir de la foi soi-même pour la transmettre. Mais ils n'y connaissent rien.
Mais ça n'est rien.
Alors comment voulez-vous qu'ils transmettent aux
C'est quand même très bon d'avoir la foi. Hein. C'est quand même très bon d'avoir la foi, parce que la foi, au moins, vous permet d'avoir un sens juste de Dieu. Et ça, c'est important. La compréhension de toutes les difficultés, oh, c'est pas tellement nécessaire. Et il ne faut pas donner ces premiers chapitres de la Genèse à n'importe qui. Et il faut les donner d'abord à celui qui a déjà compris, ou perçu en tout cas, et vécu, qui était Jésus-Christ. Car c'est dans le plan même, dans le plan sauveur de Jésus-Christ, que je vais pouvoir lire tous ces textes aujourd'hui. Et donc ça, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on se retire la plupart du temps dans l'Évangile, et même dans l'Évangile plutôt que dans les quatre Évangiles, alors qu'ils disent quand même tous les quatre des choses un peu différentes, à partir de la même souche, à partir du même Jésus. Hein? Mais on se retire dans l'Évangile, et puis on ne voit plus que cela. Puis on dit, Ancien Testament, on ne connaît pas. L'Ancien Testament, moi je ne sais pas expliquer. Mais l'Ancien Testament se trouve aussi dans l'Évangile. Jésus réutilise constamment. Il parle de Noé. Il en était comme cela au temps de Noé. Comment est-ce que vous expliquez ça quand vous avez le texte à la messe de dimanche? Il faut quand même faire référence à Noé. Évidemment, quand il faut dire tout ça en 4 minutes le dimanche, hein, et que vous n'avez pas une heure et demie pour expliquer votre texte, et que les gens ne sont pas plus accrochés à ce que vous essayez d'expliquer, alors évidemment ça fait des problèmes. Mais regardez, écoutez simplement, ne fût-ce que le dimanche, Yossi Heisenberg, avec un collaborateur qui l'invite. Écoutez comment il met une année pour présenter l'histoire de Caïn et Abel. Une année entière. Moi, gardien de mon frère. Et ça fait combien? Moi, c'est une quarantaine d'émissions avec images dans une discussion. Mais il met toute une année pour ça. Il a mis toute une année pour la création, il a mis toute une année pour la création d'Adam et Ève, il met toute une année pour Abel, etc., etc., parce qu'il a continué d'autres livres. Et, alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des moyens qui peuvent rendre une certaine connaissance de ces choses, pas seulement une connaissance intellectuelle, ça n'a pas tellement d'importance, mais à travers cette compréhension que nous recherchons ensemble, il y a une confrontation intérieure. Et cela, la catéchèse n'arrive pas toujours non plus à la donner.
Les gens ne savent pas.
Mais c'est très important. Regardez, vous avez des méthodes catéchétiques, bon, on peut dire qu'elles sont trop intellectuelles, ou trop ceci, ou trop cela, peu importe, mais une méthode comme celle de Lagarde, par exemple, des Lagarde plutôt, hein, mari et femme. Bon, qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans leur catéchèse? Exactement le trajet des pères de l'Église. Partir du sens littéral, du sens obvi, celui que, précisément, François nous rappelait, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on a en tête? Et puis on dit, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi dit-il les choses de cette manière-là? Et un enfant, même de 8 ou 9 ans, est capable de faire cela, ce travail-là. Mais il faut l'habituer à faire ce travail-là aussi.
Il faut savoir le faire soi-même.
Ah. Ils nous l'apprennent la plupart du temps. Ils nous apprennent à le faire. Est-ce que ce texte, quelle image de Dieu cela donne-t-il? Quand on dit Dieu décide le déluge, est-ce que ça ressemble à Dieu? Il faut quand même leur demander ça aux enfants. Est-ce que Dieu peut est-ce que ta maman va te jeter par la fenêtre? Ben non, elle ne va pas me jeter par la fenêtre. Elle va... Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu met le peuple, son peuple, l'humanité, dans le bain dans lequel elle s'est mise? Dans lequel cette humanité s'est mise. C'est bien ça qu'il s'agit dans la Dieu regarde et il voit le monde est submergé de violence. Et Dieu va dire, qu'est-ce que je vais faire avec cette violence? Et je vais mettre de l'eau, je vais laver tout ça. Et il met de l'eau, et figurez-vous que l'eau, elle porte celui qui se laisse surnager. On peut raconter ça quand même à un enfant. il fait cette expérience-là quand il prend son bain avec ses jouets, hein, dans son bain. Il fait cette expérience-là. Mais ça, c'est le texte qui raconte cela. Mais, alors, il me dit, comment est-ce que je vois Dieu ? Je vois Dieu comme quelqu'un qui m'en veut. Ça, c'est l'idée qu'il y a au départ de la... qui est dans le texte, au départ du déluge. Quelle est l'idée qu'il y a après ? L'homme remercie Dieu parce qu'il en est sorti. Et Dieu dit, il n'y aura plus jamais de déluge. Comment allons-nous mettre les choses ensemble ? Un enfant, même un petit enfant, est capable de suivre un raisonnement comme celui-là. Il est capable. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il essaie d'abord de se heurter au texte. Il faut d'abord que le catéchiste ait compris le texte et le raconte d'une bonne manière. Et le raconte.
Tu commences à lire, et puis toi tu commences à lire, et puis toi tu continues à lire. Oui. Et puis c'est comme ça qu'on a raconté un texte. Alors
c'est le catéchiste qui doit raconter. Et il doit le raconter en connaissant les enfants. Et en écoutant les réactions des enfants. Et en reprenant ces réactions et en les incorporant au texte. Ah, ça, c'est important. Mais ça, c'est la tâche du catéchiste. Comme c'est la tâche des parents, qui n'ont peut-être pas appris ailleurs non plus, ce que c'était qu'un conte et comment le raconter, mais qui trouvent, parce qu'ils connaissent leurs enfants, et qui connaissent aussi le conte, qui trouvent le moyen d'intégrer l'enfant dans le conte et le conte dans l'enfant. Mais c'est tout un travail, c'est un engagement. Et alors, il ne faut pas s'étonner, je ne vous ai lu qu'une toute petite partie sur la violence. Et encore la plus facile. Hein? Mais si vous lisez tout ce que Paul Beauchamp et Denis Vasse, hein, tirent de ce thème de la violence dans la Bible, mais c'est extraordinaire. C'est d'une profondeur formidable. Et pourquoi ne sommes-nous pas tellement accrochés à ces affaires-là que... Ben oui, ils sont donnés maintenant dans des livres, hein, et même dans les choses toutes simples. C'est mis à la portée d'un chacun. Le sens de ce texte est donné ici, en bref. Alors, faut-il traduire autrement ? Ça, pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas, deux choses, on me dit, pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas les textes en style simple ? Et d'autres qui me demandent, pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas tous les textes, hein, en littéral, comme je vous l'ai lu ? Bon, notez que Chouraki a déjà fait le travail, hein, la plupart du temps, pour ce qui est littéral. Hein? Bon. Mais, parce que j'ai un texte de référence, la Bible est un texte de référence. Quand je traduis, j'édulcore. C'est vrai, j'édulcore toujours. La force du texte me dépasse chaque fois. Mais la force du texte passe à travers les méandres de mes images. Quelle image me fabriquais-je de Dieu ? Quelle image Israël s'est-il fabriqué de Dieu ? Et il y a des tas d'images de Dieu qu'il s'est fabriqué, des tas d'idoles, autrement dit. Et pour connaître la purification progressive de ces images, il faut lire toute la Bible. Il faut lire toute la Bible. Qui d'entre nous l'a déjà lu 3 ou 4 fois ? Je vous ai peut-être déjà dit, hein, ça m'a frappé vraiment, ça m'a touché. J'étais à Jérusalem, nous avions à l'Institut biblique une grande carte qui était au mur, qui avait été faite en plâtre et qui donnait tout le relief de la Terre Sainte, d'Israël. Tout le relief avec les montagnes, les fleuves, etc. Tout est en relief. Et ça mène un après-midi, un homme et une dame. C'était des Irlandais, protestants, et le mari était aveugle, et ils me disent qu'ils ont appris qu'il y avait une carte en relief là, à cet endroit-là, et qu'ils aimeraient bien pouvoir la consulter. Et alors, comme elle partait un peu haut, il a fallu mettre une table, et puis à un certain moment, une chaise sur la table, et le
on a aidé ce monsieur à monter, et puis il me dit, tiens, dites-moi où est Jérusalem. Et en touchant, hein, je lui ai mis le doigt sur Jérusalem. Et puis à partir de là, il dit, laissez-moi. Puis il a dit, ici c'est Jéricho, puis c'est la mer morte. Et puis tiens, c'est Bethléem là. Et alors, il m'a fait tout le tour de la carte. Il connaissait, mais des choses extraordinaires. Je lui dis, mais comment connaissez-vous tout cela? Ils disent, bah, le soir, nous lisons quelques chapitres ensemble. Nous avons déjà lu la Bible 3 fois ensemble. Nous nous posons des questions. Et c'est la 4e fois. Nous sommes en train de la lire pour la 4e fois. Vous voyez? Et c'était touchant. Mais il connaissait. Vous auriez dit qu'il avait la carte dans sa tête. Et il me suivait le Jourdain. Et il suivait le... Et il disait, là, ça c'est... Ah, c'est Gath. C'est Gath. Je ne sais pas si vous savez, ou peut-être Gath. Hein. Betchemesh. Hein. Lakish, etc. Mais des noms comme ceux-là, que probablement, hein, nous n'avons jamais ou presque jamais entendu. Et c'est extraordinaire. Vous voyez. Alors, quand on connaît la Bible et qu'on a cette idée générale, centrale, quand on n'est pas braqué sur un texte, mais qu'on sait que Dieu est bon et que cette bonté doit trouver son chemin à travers la perversité de l'homme et comment il découvre ce chemin en Jésus, quand on a ce fil conducteur, il y a moyen de lire les textes et de voir qu'aucun texte de la Bible ne reste jamais sur une destruction, mais jamais. Il y a un chemin, chaque fois. Alors, vous voyez, il y a une sorte de connaturalité avec la réalité de la Bible, qui la plupart du temps nous manque, mais que nous avons quand même reçue. Et heureusement, il ne faut quand même pas dire, condamner tous les catéchistes, tous les prêtres, et toutes les religieuses, et tous ceux qui font, hein, qui transmettent la foi. Il y a quand même un sens profond, et c'est vrai, un sens de foi. Et c'est vrai qu'il faut souvent se raccrocher à ce sens de foi des catéchistes et des autres, et qui leur fait trouver souvent de très bonnes choses, très bonnes choses, de très bons chemins. Donc il ne faut pas quand même pas tout condamner. Oui.
Je voulais poser mes réflexions quand je vois tous ces textes que je pense que je trouve de plus en plus profonds, même si ce sont des textes mythologiques, qui sont d'une profondeur et d'une réalité terrible. Mais il faudrait, je crois, repenser, quand on parle de la Bible, réexpliquer la ligne du temps, pour reparler du début, dans notre temps à nous, et jusque maintenant, en expliquant vraiment où ça a été situé. Et ici, spécialement, il ne faut pas oublier que c'est après peut-être l'exil que ce texte a été écrit. Il faut,
après l'exil, oui. Ah oui.
Donc, le début, j'étais là. Je m'excuse un peu de refaire un peu appel au Rwanda maintenant, mais si on se rappelle au Rwanda comme il est maintenant, si on relit un petit peu toute l'histoire du déluge en regardant ce qui s'est passé au Rwanda, on a un peu, je crois, une compréhension. Enfin, pour moi, c'est un peu plus clair.
C'est vrai.
Avec des différences. Et alors, ce que je veux dire aussi, je vais t'achever avant que je m'excuse, c'est qu'il ne faut pas oublier que même l'Église a été un petit peu, a oublié qu'il y avait toutes ces fautes originelles qui avaient Caïn, qui avaient tout ça, et qui a un peu, je dirais, tué et chassé ceux qui avaient parfois une idée personnelle, une pensée personnelle. On a interdit ainsi de lire la Bible, si bien que toute notre génération a été empêchée de méditer ces textes merveilleux, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu, même si on l'aurait désiré, se nourrir de cette technique. Et alors, il y a un manque qu'il faut essayer de combler, et donc, en parenthèse, les témoins de Jéhovah ont eu une ascension parce qu'ils se sont servis de ce manque pour progresser, hein, mais il faut revoir en profondeur, il ne faut pas avoir peur de voir la réalité des choses, et d'éviter aussi parfois de penser à ne pas exclure pour des personnes des choses qui, par après, ça pourra se retourner contre nous. Ceci dit, c'est pour vous dire que dans la ligne du temps, si on voit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on comprend beaucoup mieux les choses.
C'est vrai qu'il y a une ligne du temps qui est nécessaire. il y a une prise de distance des choses. Et actuellement, généralement, en tout cas dans l'information catéchétique des enfants, on en parle. On en parle. Encore que les enfants ne prennent pas toujours le recul suffisant, hein, parce que l'histoire n'est pas tellement facile, surtout quand c'est avant Jésus-Christ, c'est encore plus difficile. Mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, la ligne du temps est importante. Il faut savoir comment ces textes ont été écrits et d'où ils ont surgi. Ça, c'est très important. Mais en même temps, il faut aussi les considérer comme un tout, ces textes. Et vous voyez, on a voulu, c'est Melchior Cano qui a voulu faire ça à la Renaissance, on a voulu réduire la Bible en quelques formulations, comme je le faisais tout à l'heure, en quelques formulations de type dogmatique. Mais on perd tout. On perd la poésie, on perd le temps qu'il faut pour étudier un texte et pour passer par les méandres de ce texte, pour se poser des tas de questions, et donc pour se forger une liberté acquiescente à Dieu. Car le but de ces textes est finalement cela, de nous remettre en mémoire les différentes images que nous avons de Dieu et de nous permettre de choisir quelle est celle que nous voulons, quel est le véritable Dieu. Et finalement, les textes nous font faire un travail de conscience, un travail intérieur. Et il ne faut pas le négliger non plus. Encore une chose, avant de donner la parole aux questions, aux autres questions, si on a interdit de lire la Bible, c'est à partir de la tradition protestante qui disait « Pas nécessaire d'expliquer la Bible, elle parle d'elle-même. » Et donc, on ne met pas de notes. C'est la parole seule qui compte, et la parole inspirante. Et comme il n'y avait pas de notes, on disait c'est dangereux de lire la Bible parce qu'on peut en faire n'importe quoi. On peut prendre, hein, on peut mal comprendre un texte comme celui de la Genèse, hein, ou du Déluge. Mais maintenant, et justement c'est à partir de là qu'on a fait des Bibles avec notes. Si vous lisez bien les notes, et si vous allez, quand on vous dit allez voir, hein, allez voir, ah. Et si vous allez faire ce va-et-vient entre Ancien et Nouveau Testament, je vous garantis que vous connaîtrez vite la Bible. Mais c'est tout un chemin à faire. Et si nous ne le faisons pas, évidemment, nous n'en avons pas le bénéfice. Oui, il y a Michel et puis il y a Marie-Jo. Oui.
J'ai eu une petite expérience qui a pu expliquer les deux choses et ça m'a fait comprendre. Donc c'était un baptême pendant la messe, et alors j'avais confié dans la préparation au père et à la marraine la lecture des deux lectures du dimanche. Et voilà qu'avant de commencer, je vérifie que le père est là et la marraine, et le père me dit je refuse de lire ce texte-là, c'était celui de Jérémie qu'on a lu il n'y a pas longtemps.
Ah oui.
Alors j'ai discuté un petit peu avec lui, parce que c'était un peu une expression de l'ignorance. Et alors,
dénonçons-le. Hein.
Et après, nous avons réfléchi beaucoup, et qu'est-ce que j'ai compris qui se passe souvent? C'est que finalement, chacun de nous, nous sommes la perfection même. Nous estimons que voilà comment il faut parler, voilà la sainteté des choses, etc. Nous sommes la perfection même. Seulement, quand on réfléchit plus loin, je le disais, mais vous ne connaissez aucune personne qui est donc bafouée dans ce point, etc. Et vous-même, en vous-même, vous ne sentez pas parfois le mal. Et il en a convenu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une image de Dieu qui est défigurée parce que l'homme lui-même est défiguré, et que donc Dieu nous apparaît au fond quand Dieu se révèle à nous. Il nous révèle surtout à nous-mêmes, il révèle ce que nous sommes. Donc Dieu défigure fatalement son image, puisque il doit, un petit peu comme la maman qui se met en colère, il doit quelque chose par amour qui dépasse.
Mais on défigure son image, la maman, hein. On ne voit plus que la colère, on ne voit plus l'amour. C'est pour ça que si vous faites référence à des réalités concrètes, relationnelles, vous êtes probablement dans le droit, hein, en refaisant des... Mais là, si tu vois le chemin du petit texte de Jérémie, avec 4-5 versets, mais il partait d'une persécution qu'il subissait, et puis à la fin, il dit Alléluia. Il dit grâce soit rendue. Donc quel est le passage qui s'est fait dans ce texte? Oui. Ben oui, je vais les démolir tous, et puis grâce à Dieu. Oui. Donc, il se passe quelque chose, mais tout le monde peut voir qu'il se passe quelque chose dans ce texte. Et que ce qui se passe dans le texte se passe en nous. Alors, si nous parvenons à faire cela, hein, pas regarder le texte du dehors comme si c'était la belle histoire de Jérémie, monsieur Jérémie qui a vécu il y a autant d'années, mais le Jérémie que je suis, comment est-ce qu'il dit ce texte? Si vous faites ça, le Noé que je suis. Et le cousin de Noé, là, celui qui est dans l'eau, hein, comment est-ce qu'ils réagissent l'un et l'autre? Et une fois qu'on se met sur ce ton-là, il y a moyen de travailler, mais il faut faire cette réflexion en soi, oui.
Moi, ce que je voulais dire à soi, parce que j'ai trouvé très fortement comme lui le désespoir de ne rien comprendre, et que j'ai été un petit peu sauvée un tout petit peu de ce désespoir par le travail de Marie Balmary, et en particulier, quelque chose que j'ai toujours trouvé évidemment choquant, c'est qu'on nous montre comme le père, le modèle suprême des croyants, Abraham qui va sacrifier son fils unique. Or, moi, ma révélation humaine, c'est qu'un Dieu qui demande de sacrifier son fils unique, mais c'est pas mon Dieu, hein, non, là, il m'intéresse pas celui-là. Et d'après ce passage, Marie Balmary met en relief, met en évidence, même, j'ai entendu, elle dit Dieu nous est donné par la révélation dans la Bible, et il nous est donné aussi par la révélation intérieure qu'on en a. Et donc, ce que moi je sais de Dieu, c'est aussi vrai que ce genre. Et en recherchant, elle a dit non, c'est pas possible, mon Dieu à moi, il ait demandé ça, et donc elle a fait tout un travail absolument colossal, qui est, ben oui, mais ce travail-là, il n'est pas à la portée de...
Mais si, des gens comme Augustin le font immédiatement, des travaux comme ça, le texte le fait, il commence par vous dire Dieu, et puis à un moment donné, et l'ange du Seigneur, et il passe à Yahvé. Ça veut quand même dire quelque chose, non? Il faut faire attention à un texte. Si vous dites Dieu, c'est l'idée de la divinité que j'ai. Hein? Moi, il me semble que Dieu me demande cela. Il m'a donné cet enfant. Eh bien, cet enfant n'est pas à moi, il est à Dieu. Donc, il me l'a donné, je le lui rends. Pour bien montrer que ce n'est pas moi qui ai fabriqué cet enfant, je le reçois vraiment comme un cadeau. C'est une manière de dire cela. Et puis découvrir que ce n'est pas ça que Dieu veut, j'entre dans une profondeur plus grande. Je découvre davantage qui est Dieu. Ce n'est pas seulement mon idée de la divinité. Vous voyez ? Mais ça, à un niveau très simple, un petit enfant juif vous l'expliquera. Parce qu'il a posé des questions. Pourquoi le bon Dieu, il demande que le papa tue son enfant ? Tu penses que le bon Dieu demande que le papa tue ton enfant? Tu aimerais être tué par ton papa? Donc c'est que ça veut peut-être dire autre chose. On va essayer de découvrir ce que ça veut dire. Mais le rabbin va faire ça avec ses enfants, hein? Et c'est un texte très important, Rakela.
Hein? On a toujours dit que ce texte est une protestation justement contre le sacrifice humain.
Bien sûr.
Il ne faut pas avoir suivi 20 sessions...
Non, mais, vous voyez, mais c'est notre connaissance des choses qui va pas très loin. Pas très loin. Enfin, ça, j'en peux rien, c'est pour ça que sinon je viens plus. Ça résout le problème. Voilà, donc, les... Non, mais, vous voyez, c'est que c'est pas simple. Ce ne sont pas des textes simples. Ils paraissent anodins, ils ne sont pas simples. Oui.
Mais alors, pourquoi les donne-t-on à tout venant, à tous les paroissiens qui viennent le dimanche, ou bien aux braves gens qui viennent en semaine, qui lisent ça et qui repartent gros gens comme devant? Pourquoi est-ce que l'Église donne tous ces textes-là, en fait, sans explication?
Mais si. L'explication, elle doit être donnée par le prêtre ou celui qui fait l'homélie.
Mais c'est pas en 8 minutes qu'il va tout faire.
Ah, qui est-ce qui a dit qu'il fallait le faire en 8 minutes? Si vous commenciez à le faire en une heure, vous diriez peut-être les gens ne viennent plus. Alors vous voulez avoir les gens ou vous voulez dire l'écriture? Vous voyez, il y a un problème. Et le problème, il est là.
Le problème. Savoir si Dieu veut s'exprimer, veut parler au peuple, parce que tu as justement dit le premier jour, tu as répondu en parlant de la porte étroite avec un grand sourire oui. Et une délectation. Moi, ça ne me satisfait pas non plus. Quoi.
Mais si la Dieu porte étroite, parle... c'est nous.
Comment?
La porte étroite, c'est nous.
Ah oui, oui, oui.
C'est nous qui avons.
On joue continuellement sur les mots.
Mais non, on ne joue pas sur les mots. C'est la réalité. C'est toujours moi qui suis la porte étroite, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais passer? C'est moi.
C'est pas moi qui fais passer.
Mais si c'est moi qui lis le texte.
Moi j'ai toujours compris que Dieu s'adressait à son peuple. Hein? Et le peuple, c'est nous, vulgaires pécus, là.
Mais.
Est-ce que nous avons le droit d'accéder hein? Et c'est la même chose pour l'évangile. Hein? Parce que si on attaquait l'évangile, on serait exactement d'accord. Devant les mêmes
débats. On l'a déjà fait ici un certain nombre de fois.
J'imagine. Hein? Bon. Alors je me dis, mais quelle est cette accessibilité? C'est réservé à qui alors?
À tout un chacun, si tu voyais autrefois Ernest Poivre qui était ici dans la maison et qui avait 18 groupes bibliques, dont un en wallon, et qui simplement lisait le texte et écoutait comment les gens le comprenaient, et il a toujours découvert des tas de choses que disait le texte dans les gens qui le comprenaient. Les plus simples d'abord.
Oui, ça c'est vrai et c'est pas vrai.
Le texte est accessible pour celui qui veut l'écouter.
Ça n'est pas vrai, ça. On passe à côté. Allez.